Libre, l'émission d'actualité culturelle animée par Agathe Callot.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Quartier Libre l'été. Tout au long de l'été, ce n'est pas l'émission que vous avez l'habitude d'entendre qui sera diffusée sur les ondes de Radio Pulsar, mais ce sera des podcasts d'ici ou là, des épisodes de la halte ou encore des documentaires originaux rien que pour vos oreilles. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison de Quartier Libre avec toute l'actualité culturelle près de chez nous. Aujourd'hui, sans transition, la chronique écologique de Quartier Libre s'attarde sur les ondes de Radio Pulsar. On profite du rythme farniente de l'été pour revenir sur la chronique de l'hiver passé, parce que tout n'a pas été raconté. Souvenez-vous de ce voyage dans la Vienne. Souvenez-vous de ces rencontres avec des lieux culturels réutilisés où il était question de réemploi. On reprend la route avec Nathalie et on vous emmène au sud du département, au Café Cantine, pour découvrir un lieu culturel vivant en milieu rural. Puis nous irons dans la vallée de la Gartempe pour rencontrer la distillerie de vie, lieu culturel intermittent recyclé aujourd'hui en habitat partagé.
Nous arrivons à Jancey, place de la mairie, jour de marché. On se dirige vers la terrasse de mobilier palette du café. À l'intérieur, nous sommes accueillis par le bonjour de l'équipe qui planche sur les menus de la semaine prochaine. Nous avons rendez-vous avec Patrick Thibault, gérant et associé du Café Cantine. Il nous raconte la rencontre de l'équipe avec ce lieu.
La rencontre avec ce lieu-là est plutôt un peu liée au hasard. Commencer tout doucement à réfléchir au projet de créer un lieu, de créer le Café Cantine, quand on a appris que ce lieu était que le fonds de commerce de ce lieu était en vente. Et donc on est allé visiter, et puis à ce moment-là on n'avait pas les moyens d'acheter, mais on s'est dit que c'était un emplacement intéressant, j'en sais, à ce moment-là. Et vu qu'on cherchait à être sur le milieu rural, ça reste une petite ville, etc. Donc ça nous paraissait plutôt pas mal. Et puis on a pu reprendre ce lieu au bout de 8-10 mois. On est monté le projet, on a rénové un petit peu l'intérieur et puis c'était parti quoi.
Et l'histoire de ces murs témoigne d'une longue tradition de restauration.
Certains anciens nous parlent de ce lieu depuis déjà même les années 50, 60. Ça fait longtemps que ça existe et que c'est un café-restaurant. Ouais. Il y a des cartes postales du début 20e où on voit déjà le café du commerce existant.
C'est donc en 2015 que les murs de l'ancien café du commerce connaissent une nouvelle vie, un réemploi donc, avec le renouveau insufflé par le Café Cantine qui reprend cette activité de restauration au cœur du village. Et au départ, l'équipe ne s'était pas forcément rendu compte qu'elle reprenait aussi l'histoire d'un lieu.
Nous, on voulait peut-être plus mettre l'accent sur le côté bar, au démarrage en tout cas, et on a bien compris qu'en fait, pour les gens, ce lieu, c'était un restaurant. Et qu'on avait beau essayer de le tourner dans l'autre sens, c'était un restaurant. Donc nous, il a fallu qu'on fasse avec le fait qu'il avait cette histoire et qu'il fallait qu'on s'ancre aussi dans cette histoire. C'est aussi pour ça qu'on a gardé le terme de café-cantine du commerce, pour rester aussi en lien avec tout ce qui s'était fait jusqu'à présent.
Aujourd'hui, on y mange des repas presque bio, dont les produits sont issus des 30 km alentour. Parce que pour le Café Cantine, proposer des repas bio et abordables, c'est la base.
C'est partie des bases presque du projet en fait. Il y avait aussi bien l'aspect culturel qu'en effet l'aspect écologique. Alors écologique c'est un grand mot, mais en tout cas avoir cette conscience de la situation actuelle et trouver comment est-ce qu'on pouvait proposer ce qu'on peut proposer dans un bar, café, restaurant culturel, tout en essayant d'être le plus vigilant possible à ce lien à l'environnement, à l'écologie, etc. D'où le travail avec un maximum de gens, de maraîchers en circuit court, proposer que des produits de saison. On essaye de faire en sorte que la plupart du verre qu'on réceptionne pour les boissons puisse être recyclé. Tout ça, on l'a en tête en permanence, quoi. Donc on peut pas tout faire, évidemment, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose auquel on est toujours en train d'y penser.
Le Café Cantine, c'est aussi une base d'action de la transition écologique pour participer à l'échelle locale, bien réelle et bien concrète.
Puisqu'on peut pas trop intervenir sur les politiques générales. Là où on peut intervenir, c'est localement. Et localement, bah, ce qu'on peut faire, voilà, c'est des petits gestes du quotidien. Alors ça va pas changer le monde, mais en tout cas, ça montre une certaine volonté de la part de gens et qui sont plutôt en soutien de ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt rassurant. D'où l'idée, à titre et individuel et du coup en tant que lieu de commerce, de se dire, essayons de faire vivre un lieu en fonctionnant sur du circuit court et bio dans la mesure du possible, parce qu'on n'est pas non plus, s'il y a des produits qu'on ne trouve pas en bio, c'est pas grave, ou si c'est trop cher en bio, on les prend pas en bio, et on ne va pas non plus s'empêcher d'avoir tout à cause de ça, mais l'idée c'est en tout cas de tendre vers ça.
Patrick Thibault nous parle aussi de la réflexion portée sur le bâtiment et le réemploi du mobilier.
Alors oui, il y a aussi une réflexion sur le bâti. La seule chose, c'est que là, on n'est pas propriétaire du bâti. Donc on a beaucoup moins de marge de manœuvre. Mais par exemple, on s'est inscrit dans un projet qui était mis en place par l'ADEME pour l'aide aux justement cafés, restaurants, entreprises, etc. pour aller vers la transition. Donc on a participé à ce projet et entre autres ce qui nous a permis de commencer à verdir un peu la terrasse pour justement essayer d'éviter d'avoir que du minéral. Alors, on a transformé une partie des luminaires à l'intérieur pour que ça consomme moins. On est passé entièrement en LED. Tout ce genre de petits détails qu'on peut, nous, sur lesquels on peut jouer. On essaye de jouer dessus, ouais.
Les vieux murs, les vieux meubles n'empêchent pas une touche de nouveauté. Le café cantine apporte au bourg sa propre patte, une patte culturelle. La programmation de concerts, le coin librairie et musique indépendante fonctionnent en complémentarité des activités proposées par le centre culturel et le cinéma de village. Patrick Thibault nous explique ce que deviendra le premier étage du café cantine.
C'est une salle qu'on ouvre au public, mais de manière plus occasionnelle, qu'on va ouvrir par exemple les soirs de concert, parce qu'il y a... il y a pas mal de tables qu'on enlève pour pouvoir participer au concert, donc du coup on installe les gens à l'étage pour le temps des repas. Du coup là on la transforme aussi, en tout cas on la met à disposition aussi des artistes pour les expos, voilà, qui peuvent aussi investir l'étage, voilà, ce qui leur laisse un panel un peu plus grand d'expositions possibles.
Et côté matériaux, ça dit quoi ?
Là, on a beaucoup utilisé ce que les uns les autres avaient chez eux en chute, en machin, etc. Donc en effet pour pouvoir... On n'a pas racheté grand-chose, non, on évite au maximum. on n'a pas toujours le choix, mais oui, dans la mesure du possible. Avant d'aller acheter, oui, forcément, on s'assure d'abord qu'on ne trouve pas chez les uns, chez les autres, un bout de quelque chose qui traîne, et après, en fonction.
Changement de décor. Direction Saint-Pierre-de-Maillé, où Hélène Germann et Barbara Constantine nous accueillent à la distillerie de vie. Habitat partagé aujourd'hui, friche culturelle hier et distillerie d'alcool industriel avant-hier, elles nous racontent leur rencontre avec ce lieu, riche de ses trois cycles de vie. Barbara est arrivée au cours du troisième cycle, lorsque la distillerie est devenue habitat partagé.
Alors, personnellement, ma rencontre avec la distillerie, c'était vraiment par hasard en réalité. Je cherchais un habitat partagé. Mais en même temps, je n'étais pas très pressée. Je voulais juste trouver un lieu en attendant, enfin l'étape après avoir vendu ma maison, donc d'attendre de trouver le bon endroit. Et en restant ici, peut-être 2 mois, c'est ça. Au bout de 2 mois, je dis bon, ok, je vais rester. Donc c'est un peu différent de ceux qui cherchaient directement. Ça veut dire que je ne suis pas venue directement en disant je cherche un habitat partagé maintenant. C'était je vais chercher, mais très lentement. Le jour où je trouverai, je m'arrêterai. Et là, c'était le premier endroit que j'ai visité et dans lequel je suis restée.
Quant à Hélène, elle a été à l'initiative du deuxième cycle de vie de la distillerie, lorsque celle-ci s'est métamorphosée en friche culturelle.
Alors, moi, je n'avais pas du tout l'intention de quitter Paris. Du tout. Mais mon associé, à l'époque, je suis de métier, j'étais producteur de spectacles vivants, et j'avais un associé, Patrick Avril, et lui cherchait depuis longtemps, pour les troupes de spectacles de rue et de cirque que nous cornaquions d'une façon ou d'une autre, un lieu qui pourrait les accueillir en résidence. Parce que souvent, il y avait des constructions monumentales, il fallait des grandes hauteurs de plafond, des grandes portes, un accès facile, etc. etc. Alors, on avait trouvé des lieux à Paris, évidemment, à chaque fois. On se les a fait souffler par les promoteurs parce que c'était le moment où toute cette idée de loft post-industriel était très à la mode. Donc, à chaque fois... Bon, résultat des courses. Patrick, qui était plus ou moins de la région de la Basse-Touraine, tombe sur cette distillerie par des amis qui lui ont dit que c'était à vendre. Et il me dit, ça y est, j'ai trouvé, viens. Et donc, j'ai pris un train, je suis arrivée. Et c'était au mois de novembre. Tout fier, il m'emmène en voiture, j'arrive là. Et je vois un chandroïne. Et je me dis, mais il est fou. Mais il était tellement persuadé, etc., etc., etc. Bon. Donc, j'ai suivi, mais sans, je vous le dis tout de suite, sans absolument aucun enthousiasme au départ. Et c'est finalement, en fait, c'est quand il est décédé, c'est là où, en fait, j'ai repris le bébé et l'amour est venu en grandissant. Ce n'est pas un coup de foudre. C'est un amour qui s'est développé au fur et à mesure de la vie sur place et des travaux et des investissements à titre personnel, physique, mais financier aussi, bien sûr, il faut le dire, que l'amour a grandi et qu'aujourd'hui, je me vois nulle part ailleurs. Mais ce n'était pas un coup de foudre.
Hélène revient sur l'histoire de ces bâtiments industriels situés non loin de la gare Tempe. Elle nous fait un topo en trois temps sur les réemplois qu'a connu ce lieu.
La distillerie de Saint-Pierre-de-Maillet était une distillerie d'alcool, de betteraves et de topinambours. Elle a été construite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle fournissait les véhicules de l'administration française avec un alcool qu'on appelait le ternaire et qu'on mélangeait à de l'essence pour faire rouler les véhicules administratifs. C'est une époque, bien sûr, où l'essence était quand même réservée prioritairement aux véhicules militaires. Donc, pour le civil, il fallait trouver des alternatives. Et à l'époque, elles existaient. Et donc, la distillerie faisait partie de ces fournisseurs d'alternatives au niveau du carburant. Après, pendant 30 ans, à partir de 1973, elle est devenue une friche industrielle. Elle a petit à petit périclité, puis a commencé à s'effondrer. Et puis un jour, on l'a trouvée. On est venu s'installer ici. Et voilà, on a commencé l'aventure de la distillerie de rêve. Donc la distillerie de rêve, elle avait pour but de mettre en contact des populations touristique avec des artistes, les artistes qui étaient en résidence, les personnes qui venaient soit faire la fête, leur mariage, un anniversaire ou simplement passer de bonnes vacances, étaient en même temps que les artistes en résidence. Et donc, on créait comme ça un petit brassage, les uns participant aux fêtes des autres quelquefois, mais pas toujours. Donc ça, ça a été la distillerie de rêve pendant 15 ans. Et notre spécialité, c'était donc les fêtes familiales, les fêtes associatives et les résidences d'artistes. Par voie de conséquence, les artistes en résidence souvent proposaient donc un petit spectacle à la fin de la résidence. Donc il y a toujours eu ici des spectacles. On a commencé avec le spectacle de rue, le cirque. On a évolué vers la musique punk rock et petit à petit vers toutes les sortes de musique, sans exception. On peut dire aujourd'hui que la programmation est très éclectique. Alors la grande différence aujourd'hui, c'est que d'un lieu public, ce que nous étions avec ERP, etc., nous sommes devenus depuis 3 ans un lieu privé, c'est-à-dire un habitat partagé et participatif. Et donc, quand on accueille du monde, ce sont des adhérents. On continue d'accueillir des artistes aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la programmation est certainement beaucoup plus tributaire, bien évidemment, de la bonne volonté des habitants. Parce que si les habitants n'ont pas envie d'avoir un concert toutes les semaines, tous les mois ou tous les 15 jours, il faut moduler. C'est un questionnement qui, maintenant, se refera tous les ans. Parce que tous les ans, si on accueille de nouveaux habitants, eh bien, il faudra redemander à chacun qui a envie, qui veut, qui s'oppose, etc.
Hélène reviendra un peu plus tard sur ce questionnement, cette recherche d'un nouvel équilibre qu'oppose la programmation culturelle auprès du groupe des cohabitants. Pour mettre des images sur ce lieu à triple transition, rien de mieux qu'une visite virtuelle de ces 2 hectares de terrain. En arrivant dans la cour gravillonnée, on est entouré par 5 bâtiments. Sur notre droite, on y trouve l'atelier, autrefois gîte pour les visiteurs, aujourd'hui lieu d'habitation que se partagent 2 cohabitants. Ensuite, sur notre gauche, le bâtiment circulaire n'est autre que la commune-maison, aujourd'hui mix entre habitation et partie commune de l'habitat partagé. Collé à la commune-maison, c'est la grange, aujourd'hui reconvertie en lieu d'habitation. Et devant la commune-maison, on peut apercevoir la petite maison, tendre surnom que lui donne le premier cohabitant de la distillerie. Et pour terminer la visite, il est impossible de ne pas remarquer l'usine. Hier, cœur industriel de la distillerie, aujourd'hui, cœur culturel du lieu avec son café associatif La Chaudière et ses 6 habitations. Après ce tour du propriétaire, enfin des copropriétaires, Hélène German revient avec nous sur les actions de transition collective mises en place à la distillerie et notamment au début des années 2000, époque où les bâtiments industriels abandonnés ont peu à peu retrouvé vie.
Dire que à l'époque où nous sommes arrivés, c'était dans nos préoccupations. Non. Ce qui était dans nos préoccupations, c'est de faire en sorte qu'il y ait un clos couvert et que ça arrête de fondre, comme disent les gens ici. Alors, autant on a eu un souci de toujours, quand on demandait de l'aide extérieure, de le faire toujours en local. C'est les entreprises, une entreprise de couverture d'ici, enfin de Deezer, qui a fait la couverture. Mais on a fait beaucoup de choses nous-mêmes parce qu'on était 12 au départ. Donc, on a fait énormément de choses nous-mêmes. Réemploi, alors ça, oui, bien sûr. D'abord parce qu'on n'avait pas les moyens de tout acheter en neuf, qu'on a beaucoup réemployé. Après, vous dire qu'on est allé chercher des plaques de chanvre à l'autre bout de la France, parce qu'à l'époque, il y a 20 ans, il n'y avait pas de fabrication ici. Non, on ne l'a pas fait. On peut dire peut-être ici sur les peintures, parce que c'est mon frère qui a essentiellement fait tout ce qui était peinture décorative extérieure, et il travaille qu'à la chaux, chaux et pigment. Donc ça, on peut dire que oui, il y avait un souci là-dessus, mais lui est beaucoup plus avancé que moi. Évidemment qu'il avait ce souci-là. Nous, à part cette histoire de réemploi qui a été vraiment très fort, parce que pour des questions économiques essentiellement, je répète qu'à l'époque, je n'avais pas du tout, aucun de nous d'ailleurs, n'avait véritablement cette chose en tête, hein, de faire de façon vertueuse. On avait surtout en tête de faire de façon assez rapide pour que ça arrête de s'abîmer. Et puis alors après, bah oui, depuis 3 ans, bah évidemment que toutes les rénovations qui sont faites, je pense, sont faites avec ce souci-là. Barbara peut en parler parce qu'elle a eu vraiment ce souci-là chez elle, donc de tout bien faire.
Oui, mais ça, c'est pour un seul bâtiment, enfin, parce qu'il y avait tout à faire. Et donc, effectivement, d'utiliser du chanvre, de la laine de bois et du chanvre, etc., pour l'isolation, et la peinture à la chaux aussi.
Oui, oui.
Voilà.
Et là, après, bon, il y a une chose si qu'on peut peut-être noter, c'est que à part la chaudière à fioul qui a été montée dans cette maison, autrement, l'énergie est essentiellement bois et géothermie dans l'usine et bois ici. Donc ça, oui, c'est une chose. Bon, ici, en 2003. Il nous fallait absolument une source de chauffage. À l'époque, on ne montrait pas le fioul du doigt. C'était les moyens de chauffage et d'eau chaude le plus économique et c'était le plus facile.
20 ans après la reprise de la distillerie, premier bilan. Où en est la transition écologique du lieu ? Hélène nous donne quelques éléments de réponse.
Ce que vous appelez la transition écologique, nous, elle est quand même entamée depuis un sacré bout de temps, mais il y a tellement de choses à améliorer, il y a tellement, bon, la dépollution elle est faite, on a planté 148 arbres, etc., etc. Donc il y a quand même déjà un bon boulot de fait, il n'y a plus d'amiante dans aucun des bâtiments, enfin tout ce genre de choses c'est fait. Mais à côté de ça, on a des récupérateurs d'eau, il y en a qui ne sont pas encore branchés. On a un potager. Il n'est pas encore parfaitement autonome, justement, en flotte. Bref, il y a des réajustements à faire qui sont très importants. Et pour ça, Il faut qu'on ait le temps. Il faut qu'on ait le temps de réfléchir. Il ne faut pas qu'on ait tout le temps la tête dans le guidon avec des urgences pour accueillir un tel ou un tel. Il faut qu'on soit entre nous, qu'on se pose, que régulièrement, on se remette en question là-dessus et qu'on se fasse une feuille de route, justement, pour... Alors, nous, on l'imagine plus en résilience, en... Pas en autonomie complète, mais en tout cas en indépendance par rapport aussi bien aux énergies qu'aux déchets, etc., etc., d'arriver à être sobre.
Focus sur l'un des projets collectifs de transition, le potager en permaculture. Pour rappel, l'association des cultures, l'utilisation optimale de l'eau et la couverture permanente du sol par paillage sont quelques grands principes de la permaculture. À la distillerie, c'est une source d'apprentissage de la résilience au quotidien, tout en étant en équilibre avec le soutien aux producteurs locaux. Hélène et Barbara nous font part de leur apprentissage.
Alors, par rapport à ça, en revanche, une expérience qui, pour moi, n'est pas concluante du tout, mais ça, c'est moi. Hein, notre essai en permaculture, je ne suis pas convaincue, là, pour l'instant. Parce qu'après, on ne retrouve plus les légumes, hein. On ne sait plus où c'est un tel fichoir qu'il n'y a plus rien qui est vraiment lisible. Alors, quand on connaît très bien les plantes, je suppose que ça va. On s'y retrouve parce qu'on sait où on a planté, etc. Quand on est comme moi, un peu toujours, même 20 ans plus tard, pas très sûr de c'est quoi ça, un poivron, une aubergine ou un machin. Bon, y a des trucs que je reconnais, il ne faut pas exagérer non plus, mais... Il y a des choses, sincèrement, je ne les retrouve pas sous les amas de... Voilà, parce que la permaculture laisse quand même beaucoup de liberté aux plantes. Le truc qui est sympa, c'est de comprendre que la tomate rampe. Ça, c'est bien. Ça, c'est un bon truc. La tomate rampe. Ce n'est pas pratique, mais franchement, elle est vachement plus belle quand elle rampe. Est plus facile à cultiver et demande beaucoup moins d'eau. Donc ça, c'est bien. Bon, arrêtez de tutorer les tomates en hauteur comme on a tous fait, quoi. Mais ça dépend de l'espace qu'on a. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet.
Pour la permaculture, c'est vrai que c'est... Bon, on tâtonne encore. Et puis, de toute façon, il n'y a pas une seule façon de cultiver. On apprend, dans chaque terrain, ça va être différent... suivant si c'est plein soleil ou pas, etc. Donc, de toute façon, j'ai fait un stage de permaculture et il nous a bien dit, dès le départ, ce que je vous apprends ici, ça ne sera peut-être pas du tout valable pour chez vous, mais c'était bien aussi de le savoir. Mais c'est vrai qu'il faut tout essayer. Et puis, avec la chaleur maintenant, trop de soleil, il va falloir apprendre à faire sous les arbres, et donc planter des choses plus hautes qui mettent de l'ombre. Sur les salades, etc. Bon, mais on apprend. Tous les ans, ça va s'améliorer.
Moi, j'insistais beaucoup aussi sur le fait que l'autonomie absolue en matière de culture vivrière, pour l'instant, ce n'est pas notre but. On aimerait bien, par exemple, être autonome sur 2-3 cultures. Oui, ça, ce serait cool. Mais en revanche, je trouvais très important de garder le soutien que nous apportons depuis qu'on est là, aux entreprises locales. On a la chance d'avoir deux maraîchers bio à Saint-Pierre-de-Maillé. Donc, on prend des paniers chez eux parce que, je veux dire, c'est tellement important. Je veux dire, eux, ils se crèvent et ils font des légumes super. Il faut les soutenir et ça ne veut rien dire d'essayer d'être autonome sur toutes les cultures parce qu'on leur retirerait du boulot. On est quand même 10, je veux dire, c'est du boulot pour les maraîchers de Saint-Pierre. On leur apporte, c'est comme si tout d'un coup on décidait de faire notre pain et de plus aller chez notre boulanger. On a la chance encore d'avoir un boulanger à Saint-Pierre-de-Maillé qui est très bon d'ailleurs. Alors, il faut. Voilà. Donc, c'est le subtil équilibre entre le désir d'être suffisamment résilient et celui de ne pas retirer du travail à ceux dont c'est la profession. Voilà, c'est subtil.
Et quand on vient à la distillerie en tant qu'adhérent, quels sont les petits trucs visibles de la transition ? Hélène met en lumière le projet de changement d'éclairage de la chaudière et Barbara revient sur les bons plans et les activités rigolotes au contact de la nature.
Au niveau des éclairages de spectacle, on est dans l'optique de passer intégralement en LED, comme on l'a fait pour les extérieurs, pour des raisons aussi d'énergie, bien évidemment, d'économie d'énergie. Donc, si, il y a même dans l'accueil de spectacle, il y a quand même un reflet du chemin que nous, on essaie de parcourir en tant que cohabitants. Déjà, forcément, ça va rejaillir sur notre façon d'accueillir.
On organise aussi un troc et marché au plan une fois par an, avec autant que possible justement les maraîchers locaux, ou en tout cas du coin. Oui, enfin maintenant c'est peut-être un peu 30 km, c'est quand même encore dans le coin. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi, parce que les gens se rencontrent aussi de cette façon, et il y a des échanges au niveau d'écologique aussi. On fait des ateliers rigolos, comme par exemple quelqu'un qui accompagne les gens dans une promenade pour rencontrer les plantes qui sont et médicinales ou sur lesquelles on peut survivre. En tout cas, si jamais il manque de tout, on pourrait manger les racines de ça ou les feuilles de ci. Ça, c'est cool. Apprendre à faire du feu aussi. Ça...
Et c'est sans compter sur la restauration végane de Barbara proposée lors des différents événements.
Depuis qu'elle est là, elle a pris en main la petite restauration pendant les événements, et que cette petite restauration est végane. Donc, avec les explications qui vont avec, et un nombre de personnes assez surprenant qui, tout d'un coup, découvrent qu'on peut manger autrement et que c'est vachement bon. C'est pas triste, c'est pas... au départ, je sais pas si tu te souviens, mais les gens, ils venaient pour les merguez frites et... il n'y a plus de merguez. Puis après, ça a été, il n'y a plus de frites. Bah non, parce que la friteuse, elle mange trop d'électricité. Mais regardez ce qu'il y a sur le buffet. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que c'est? C'est des crudités, c'est des tas de choses. Allez voir Barbara, elle va vous expliquer. Et petit à petit, aujourd'hui, personne ne nous pose plus la question de, il n'y a pas de merguez. Quelque part, forcément, l'exemple, c'est ce qui est le plus frappant. Ça ne sert à pas grand-chose de faire des beaux discours. Mais si dans l'application, c'est convaincant, petit à petit, les gens y s'ouvrent aussi.
Et si on ne veut pas rater le prochain concert de la distillerie, est-ce qu'on est la bienvenue? Et comment ça se passe, la cohabitation, lors de l'ouverture au public?
On vous accueille. Souvent, c'est l'été dehors. On a cette chance d'avoir ce petit endroit là qui est à l'extérieur, qui nous permet effectivement d'accueillir un petit peu de monde. Et à partir du moment où vous entrez chez nous, on vous demande d'adhérer à l'association pour être couvert par l'assurance de l'association. Voilà, c'est tout simple. Et puis c'est pour l'année. C'est-à-dire que vous, une fois que vous avez réglé vos 5 euros, vous venez chaque fois qu'on vous invite, finalement. Donc c'est sur invitation. Voilà, donc ça c'est la première chose. Après, la cohabitation entre l'habitat partagé lui-même et les événements extérieurs se passe très bien. Enfin, en tout cas, l'année dernière, c'est très bien passé. Cette année, 2024, nous n'aurons pas d'activité l'hiver. On a décidé d'hiverner pour pouvoir justement mieux réfléchir à la façon dont l'ensemble des cohabitants aujourd'hui voient l'activité artistique, l'accueil artistique. Comment vous projetez, vous tous, dans les événements éventuels de l'année prochaine, enfin de cette année? Est-ce que vous avez envie d'y participer? Dans quelle mesure? Etc., etc. Et on définira l'ampleur de ce qu'on peut accueillir en fonction de ça. Voilà. Je crois que l'essentiel, ça va être de redéfinir vraiment la cohésion du groupe, ses buts communs. Et à partir de là, on fera une feuille de route sur l'accueil artistique.
Hélène le disait, cette période d'hivernage, de transition, pour la distillerie demande des réajustements, des discussions, du temps en fait. Un temps que les cohabitants prennent pour réfléchir à l'ouverture culturelle qu'ils souhaitent dans leur habitat partagé.
On est tout sauf un collectif fermé. C'est-à-dire la distillerie, depuis que nous sommes arrivés, bon, avant, elle était une coopérative, donc c'était aussi très ouvert, parce que tous les cultivateurs du coin apportaient les betteraves, et il y a eu jusqu'à 1200 administrateurs, c'était une coopérative énorme. Il y a toujours eu du mouvement. Elle porte ça en elle, cet endroit porte ça en lui. C'est un endroit où on vient, on va, on vient, on va, et certains restent.
Au cœur de l'été, on va, on vient entre retrouvailles entre copains, fêtes de famille, retraites introspectives, fiesta jusqu'au bout de la nuit ou pause café ensoleillée. Et c'est peut-être aussi une invitation à se demander si nous faisons les lieux ou si ce sont les lieux qui nous font. À bientôt sur Quartier Libre!